Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, l'heure de l'opus du Festival International de Colmar. Hommage à Michel Plasson, du 5 au 14 juillet, générique.
L'opus Festival de Colmar, une émission d'Accent 4 en partenariat avec le Festival de Musique de Colmar et avec le soutien du CIC Est et d'Arpège Armand Meyer.
Ce soir, nous recevons Didier Laclos-Barrère, délégué général de l'Académie de musique française Michel Plasson, à l'occasion du grand récital des élèves de la classe de chant de cette académie, ce soir à 18h15 à la chapelle Saint-Pierre, ainsi que deux chanteurs de cette académie que vous pourrez entendre, François Pardaillé, ténor, et Julien Véronèse, basse. Julien Véronèse, que l'on a déjà pu entendre samedi dernier au Festival international de Colmar, dans le rôle de Brander, dans La Damnation de Faust d'Hector Berlioz, sous la direction de Michel Plasson. Didier, la France est bien pourvue en institutions musicales, et elle l'a été très très tôt, dès l'Académie royale de musique, en 1669. Alors, qu'est-ce qui a poussé Michel Plasson, qui est le personnage central de cette académie, d'ouvrir une académie de musique française en France ?
Je pense que différentes raisons ont présidé à cette décision. Je dirais d'abord que pour Michel Plasson, à l'aune d'une carrière magnifique, et puis à la fin de cette magnifique carrière qui continue, j'espère continuera toujours, il a eu ce désir-là pour la simple et bonne raison qu'il avait, je pense, un legs à transmettre, tout simplement un legs, et que je pense la raison est peut-être moins avouable politiquement, si je parle du politiquement correct, en ce sens où il a considéré très vite que le style français, le son français, la musique française n'était pas défendue comme elle avait pu l'être quelques décennies auparavant. Tout simplement parce que je crois que le phénomène de la mondialisation n'a pas épargné les orchestres et les chanteurs. Et je pense qu'on a perdu un son français. Alors là, vous allez me dire que je suis en train de faire Pâté Marconi, la voix de son maître, mais c'est exactement ça. Je partage cette idée à 800% et Michel Plasson a à cœur de défendre ce répertoire français qu'à mon avis, on ne joue pas comme on devrait jouer, en ce sens où vous avez un son allemand, un son italien, incontestablement, mais qu'il n'y a plus, je dirais, un son français authentique, même dans les institutions françaises.
Alors, qu'est-ce que c'est cette académie, concrètement ?
L'académie, je vous raconte juste pour l'anecdote, le tout début de l'académie. Un jour, je faisais un cours de chant à Paris, et le téléphone sonne. « Allô, oui, Michel Plasson !» Évidemment, bouche bée, j'avais du mal à dire deux mots. Et puis, « J'ai besoin de vous voir, il faut que je vous parle. Quand est-ce que vous êtes à Toulouse ? Venez me voir. » Voilà comment ça a commencé. Il faut dire que ça, c'était en 2014, début 2014. Michel Plasson, moi, j'étais étudiant à Toulouse en 1994. J'étais un fan invétéré, une groupie assidue. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout ce qu'a fait Michel Plasson à l'époque. Et c'est Michel Plasson qui a téléphoné à mon professeur de chant, Jeanne Berbier, sans savoir que j'avais été son élève. Et moi, étant juriste, il a demandé si Jeanne Berbier connaissait quelqu'un qui pouvait s'occuper de l'académie. Et bien sûr, je connaissais Michel Plasson par mon épouse Sophie Coche, qui naturellement a permis de faire le lien. Et j'ai débarqué chez Michel Plasson. Et bon, moi, la vénération que j'ai pour le maître et maintenant l'amitié profonde et dévouée a fait que l'académie a été créée. Alors l'académie, c'est chez lui. Donc c'est entre Narbonne et Béziers, c'est sa propriété magnifique, et j'ai envie de dire que c'est une espèce de villa de Médicis dans le sud de la France, où on accueille les étudiants à titre gratuit, on leur met les plus beaux professeurs à disposition, les chefs de chant talentueux, et naturellement la contribution essentielle de Michel Plasson et de son fils Emmanuel Plasson, sans oublier les professeurs José Van Damme et Sophie Coche. Et donc, on fait des sessions annuelles.
Et d'autres aussi, bien
d'autres. Et d'autres aussi. On a eu la chance d'avoir Nathalie Dessay, d'avoir Françoise Paulet. Et donc, ce sont des gens qui ont jalonné la vie musicale de Michel Plasson. Et on fait ça chaque année avec un bonheur indicible. Et on conclut ces sessions par des concerts qui sont offerts à la région et à tous ceux qui sont heureux de venir dans une cour magnifique qui sonne, je répète les mots du maître, comme un Stradivarius. Et on a beaucoup de chance. Et j'ai envie de dire qu'on accueille, bien sûr, sous sélection préalable, ces jeunes chanteurs. Même les meilleurs d'entre eux ont besoin de faire de la musique française. Donc on s'aperçoit que notre mission n'est pas... Enfin, en tout cas, est nécessaire et ça peut être un plus pour ces carrières. Ils sont tous en début de carrière. Il y a quelques exceptions parfois, comme le ténor que vous entendrez tout à l'heure. Mais on le fait avec un bonheur total, vraiment.
Donc, qui sont ces élèves?
Alors, les élèves, par exemple, cette année que vous entendrez ce soir, vous aurez une Albanaise, Blerta. Vous aurez également une Russe, Karina. Après, des Français, bon, vous les rencontrerez ce soir pendant le concert. Ici, pour les deux que j'ai, je les connais un peu mieux parce qu'on partage une vie musicale depuis quelque temps. Julien Véronèse, que je ne présente pas, magnifique brandeur que vous avez eu, une voix longue, facile, talentueux, avec une vis comica non dissimulée. Et puis un jeune ténor, tout jeune, 23 ans, qui est très très prometteur, finaliste au concours de Marseille il y a peu de temps, qui a fait sensation, un hold-up réussi, mais un hold-up magnifique, et je suis très heureux pour eux, et pour l'Académie, et pour l'histoire de Michel Plasson. Voilà.
Les élèves, donc, combien de temps reste-t-il dans cette académie?
Alors, on a des séances qui durent à peu près un peu plus d'une semaine. Alors, le programme est très simple. Ils arrivent avec des airs. Le matin et l'après-midi, ils intervertissent les professeurs. Le matin, les uns sont avec Sophie Coche, l'après-midi avec José Van Damme. Et de temps en temps, une porte s'ouvre, Michel Plasson arrive et hop, tout prend une tournure différente et fantastique. Et voilà, c'est une famille. Hein. C'est, tous les gens qui sont là sont des amis de Michel Plasson, José Van Damme. Et la discographie de José Van Damme et de Michel Plasson est énorme. Bon, Sophie a fait beaucoup de choses avec lui.
On va l'entendre d'ailleurs après.
Et donc, si vous voulez, on vit en vase clos. En vase clos, j'exagère parce que la propriété immense fait que c'est formidable pour tout le monde. Mais il y a une espèce de pépinière géniale. On vit sous cloche et en même temps, ça bouge. C'est une ambiance formidable. On mange tous ensemble. Voilà.
Pendant une semaine.
Une semaine, à peine un peu plus d'une semaine. Donc on a aussi la participation des chefs de chant. On a Kira Perfevets, on a également Franck Villard, on a eu Marie-Christine Gueffon. Bon, mais c'est une petite famille. On a eu la chance d'avoir également pendant 2 années Michel Trampon, qui nous a même régalé à 89 ans d'un général boom qui va marquer les annales de l'Académie. Et on a eu aussi la visite de Jeanne Berbier, comment ne pas la citer. C'est une grande famille, mais ne croyez pas qu'on fait que rigoler. Hein. C'est très sérieux, on est dur, il y a des éclats de voix, des vexations, des larmes, mais bon, c'est le monde du spectacle, hein, c'est tout. Voilà.
Pour en revenir au chant français, parce qu'on est accompagné de chanteurs, et vous aussi, j'ai bien compris, vous chantez aussi, vous avez eu en tout cas un cursus de chant. Qu'est-ce que le chant français ?
Alors, d'abord, je dirais qu'on peut retrouver dans le chant français, puisque Michel Plasson s'intéresse pour l'Académie beaucoup aux voix, mais également au cuivre. On a eu une session de cuivre il y a 2 ans. Mais c'est ce qu'on a peine à retrouver aujourd'hui, c'est la transparence. La transparence, je ne parle pas de son diaphane ni de son blanc. Mmh. Je parle d'une vraie position de voix, la hauteur du son et la qualité, bien sûr, de la diction. Mais j'ai envie de dire également que la musique française, je ferai un rapport qui peut-être agacera le maître, mais pour moi, la musique française, il y a beaucoup de Mozart sur la façon de chanter. La hauteur du son, le phrasé, indispensable le phrasé. Et c'est ce qui rend la musique française, à mon avis, à la fois fragile et très difficile à défendre. Très, très difficile à défendre. Beaucoup plus que n'importe quel autre répertoire. Vous pouvez faire de l'italien avec plus ou moins de voix, soutenu, appuyé, avec des effets vocaux qu'on ne vous pardonnera pas dans la musique française.
Donc, c'est la difficulté.
Donc, j'ai envie de dire, souvent, je dis aux jeunes, quand on chante en français, on chante sur des œufs. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne chante pas, qu'on ne phrase pas, qu'on ne soutient pas, mais on chante sur des œufs. Et toujours lié à cette transparence. Ça, je crois que c'est fondamental. C'est fragile. C'est une porcelaine. Mais la porcelaine est très, très, très solide. Hein.
Et elle dure longtemps.
Et elle dure longtemps, voilà.
Il y a un grand ténor français, Alain Vanzo, qui disait en 1982, lors d'une interview à Jacques Bertrand, alors qu'il chantait Werther de Massenet à l'Opéra de Strasbourg, « Heureusement qu'il y a les théâtres de province, sinon je ne chanterai pas. Je suis triste de ne pas pouvoir chanter dans mon théâtre. » Je précise son théâtre, c'était évidemment l'Opéra Comique à Paris, où j'ai appris mon métier. Au point de ma carrière, j'espère qu'un directeur d'opéra me mette à l'affiche 2 ans à l'avance. Et plus tard dans l'interview, il critique le star system. Alors pourquoi ce chant français est si mal aimé, négligé, écrasé par ce star system?
Mais, alors je vais vous le dire, moi je peux mettre les pieds dans le plat et lancer le pavé dans la mare. Je crois tout simplement que quand vous voulez faire un grand Wagner, un grand Strauss, je suis mal placé pour dire ça. J'ai une épouse qui chante beaucoup Strauss, mais ils n'ont aucune peine, aucune gêne à Munich, à Dresde, à Hambourg, de faire un casse totalement allemand. Ça ne leur gêne absolument pas. Et que chez nous, quand vous voulez faire un opéra français, je ne dis pas que les étrangers servent moins bien le répertoire, mais je pense qu'il y a une affinité quasi élective de cœur qui fait que les écoles françaises doivent être présentes sur le territoire français. Et moi, je pourrais citer plein d'exemples, mais je ne vais pas me lancer aujourd'hui à faire une polémique. Mais il est bien évident que je pense que les théâtres français ne soutiennent pas suffisamment la jeunesse française, d'autant que beaucoup sont subventionnés par l'État, en régie ou autre, et aux établissements publics. Et il me semble que ça fait partie de leur devoir que de leur permettre de mettre le pied à l'étrier dans ce répertoire. Si bien que, et là je vais aller plus loin, sans retirer les qualités immenses que sont celles de 1000 interprètes, mais je pense incontestablement qu'il y a une façon de chanter le français qu'on a beaucoup défendue il y a quelques années. Vous savez, il y a 25 ans, même pas 20 ans, au Conservatoire de Paris, vous aviez Rachel Yacard, Christiane Dapierre, Xavier Depraz, Suzanne Sarroca, Jeanne Berbier, la grande Régine Crespin, voilà.
C'est une génération qui a disparu aujourd'hui.
Voilà, je ne dis pas que le chant français n'a pas retrouvé des couleurs, au contraire, parce que vous avez toute une jeune génération et une à peine un peu plus âgée qui défend brillamment ses couleurs.
Cyril Dubois, par exemple, qui a chanté à Strasbourg il y a quelques
semaines. Les Pêcheurs de Perles, non, jeune, non
oui. Il a aussi Les Troyens.
Les Troyens, oui, Iopas.
Iopas, oui. Iopas, tout ah, ça.
Bien sûr, mais bien sûr, non, mais je ne suis pas... cocorico, moi. Mais je pense qu'on a aussi un répertoire à défendre. Les autres ne se gênent pas. Prenez l'Italie, vous avez presque des quotas qui ne disent pas leur nom. Si vous n'avez pas d'Italien dans les distributions d'opéra italien, de théâtre italien, croyez-moi, vous avez un casino là-bas, hein, total. Ici, c'est moins vrai, mais j'espère. Mais je sais qu'il y a quelques institutions dans l'avenir qui prendront en compte le vivier français. Voilà. Et encore une fois, je ne fais pas de cocorico mal placé.
Cette académie est en fait là pour enrichir ce vivier.
Oui, absolument. Et d'autant que l'académie est très ouverte aux jeunes chanteurs étrangers, évidemment. Parce que je pense qu'il y a un répertoire à défendre qui est moins bien défendu que les autres. Parce que c'est une question aussi de volonté nationale. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails de la recherche de fonds quand on est une académie. Mais vous savez, moi, il m'est arrivé dans des grandes entreprises, supposées grands mécènes, de chanter Carmen avec une voix russe et de chanter avec une voix française. Imaginez-moi Carmen pendant un rendez-vous, hein, pour essayer d'expliquer ce que fait l'Académie. Bon, voilà. Eh bien, je crois que ça ne parle pas à tout le monde.
Très bien. Eh bien, on va écouter tout d'abord un exemple, un premier exemple. Et quels exemples? Un duo. Duo du concerto du premier acte d'Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach, sans doute le plus français des compositeurs allemands, avec Maddy Mesplé dans le rôle d'Orphée et Michel Sénéchal dans le rôle d'Eurydice.
Génial.
Deux grandes figures du chant français qui sont également associées à l'Académie de musique française Michel Plasson. Et c'est bien sûr lui-même, Michel Plasson, qui dirige l'Orchestre national du Capitole de Toulouse en 1978, un enregistrement EMI.
Tu me trompes comme mari.
Oui, mon ami. Oui, mon ami.
Tu me dédaignes comme artiste.
Oui, mon ami, oui, mon ami.
Tu n'aimes pas le violoniste.
Mon ami, mon ami, le violoniste.
De ton insolence, je dois tirer vengeance.
Mais comment
je veux brûler. Je vais, ma tendre amie, vous jouer aussitôt une œuvre de génie, mon dernier concerto.
Grâce, je t'en supplie.
Non, non, pas de retard, c'est le comble de l'art. Il dure une heure un quart.
Miséricorde,
une heure un quart, c'est le comble de l'art.
Si tu n'écoutes pas,
si tu n'écoutes pas,
si tu n'écoutes pas.
Nous écoutions le duo du concerto extrait du premier acte d'Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach avec Maddy Mesplet, Michel Sénéchal et l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson en 1978, un enregistrement EMI. Là, je crois qu'on ne pouvait pas faire plus français, l'esprit, la langue, la musique, la diction, le phrasé, c'est donc tout ça à la fois le chant français.
Absolument, absolument, puis là vous parlez... deux maîtres ex-cathédra extraordinaires, bien sûr, Maddy Mesplet, on sait, la musicienne hors du commun qu'elle était. Il n'y a pas un répertoire qui lui a résisté. Mm. Je ne vais pas faire de la musique française. Hier, j'évoquais avec François Florent, au petit déjeuner, le Strauss qu'on a donné pour la première fois à Aix-en-Provence, où elle faisait une zerbinette en allemand, parce que Ariane Anaxos avait été donné déjà en français. Avec Crespin dans Ariane et Tatiana Troyanos dans Le Compositeur. Il y a encore un enregistrement extraordinaire. Et Michel Sénéchal, bon, ben, c'est une carrière longuissime, une verve, une intelligence des situations.
Michel Sénéchal qui a lui-même créé une académie de chant français.
Absolument, absolument. Il y a deux ans, il devait venir et puis il a eu un petit ennui de santé. Il n'a pas pu, mais il était dans notre cœur. Et Michel Plasson a une amitié profonde et sincère pour lui. On l'a regretté. qualité. Et je peux en parler même à titre particulier, parce qu'il a beaucoup fait au début pour Sophie Coche. Et il disait toujours, ma chérie, tu chantes au-dessus de la barre. En dessous de la barre, c'est pas pour toi. C'était génial. Ah oui, mais vraiment.
Et c'est aussi un genre qui est tout à fait particulier. L'opérette, c'est quand même un genre très français, soutenu avec énergie au disque par Michel Plasson, notamment qui a su réunir autour de lui des solistes internationaux, Jesse Norman, Régine Crespin, Jane Rhodes, ou encore Maddy Pesplé que l'on vient d'entendre. Et je crois que c'est un genre que vous abordez souvent, Julien, n'est-ce pas ?
Alors oui, moi j'essaie de faire le maximum de styles différents et de choses différentes. J'adore l'opérette aussi, même si j'en fais beaucoup moins, pour le coup, de l'opérette. Mais j'aime beaucoup, parce que je m'amuse sur scène. Puis j'ai été à bonne école, j'ai eu la chance aussi de travailler avec Maddy Pesplé, qu'on vient d'entendre, mais aussi avec Gabriel Baquier, qui est le baryton français, justement, qui a commencé sa carrière dans l'opérette, qui lui-même le confesse, s'il n'y avait pas eu l'opérette pour le faire... travailler, chanter beaucoup sur scène, il n'aurait peut-être pas eu accès à tous les rôles après dans le répertoire italien ou tout ça. Donc c'était vraiment très formateur. Didier parlait de l'école de chant français. L'opérette faisait partie vraiment des piliers de l'apprentissage, je pense, des chanteurs.
Avec l'opéra comique.
Avec l'opéra comique, bien évidemment, que je regroupe... Oui, je les regroupe tous les deux ensemble, mais...
Je parle de l'institution.
Bien sûr. Mais encore des opérettes, des choses comme ça. Marseille continue à l'Odéon à faire des opérettes et à programmer. Après, bon, l'opéra comique, mais malheureusement, après, l'opérette, enfin, tout le répertoire français de cette époque-là, en tout cas, est un peu boudé, on va dire.
Oui, on rêve d'ailleurs à l'Académie de prévoir une année, une session exclusivement consacrée à Messager.
Ah. Effectivement, qui est un grand...
C'est un grand, c'est une idée qui est chevillée au corps de Michel Plasson et on espère, évidemment...
Qui n'est pas tant joué que
non,
ça.
Non, pas tant joué, il y a des trésors extraordinaires. Et puis, c'est une certaine époque, c'est un contexte et je pense qu'il faut aussi, à travers ses œuvres, rappeler toute cette histoire. Voilà.
Et quel a été votre parcours avant d'atterrir dans cette académie Plasson ?
Le parcours pour moi a commencé... j'ai commencé les études de chant en 2000, donc j'avais tout juste 18 ans, où j'ai intégré le conservatoire de Toulouse, où j'y ai passé d'ailleurs jusqu'en 2007, j'ai passé 7 ans je crois, ou 6 ans, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement, je suis désolé. Où j'ai travaillé avec... mais d'ailleurs nous avons un point en commun avec François, c'est le professeur que nous avons eu au Conservatoire de Toulouse, Jacques Schwartz, accompagné par Inessa Lecourt. Les cours que nous avons eu, François est encore actuellement au Conservatoire, et moi je l'ai quitté déjà il y a 10 ans, le Conservatoire. Et à la suite de ça, j'ai fait une formation au CNIPAL, donc à Marseille, qui était un centre de préparation pour les jeunes chanteurs à devenir artistes lyriques, à se lancer, une sorte de tremplin intéressant. J'ai fait un an là-bas et après, à partir de là, j'ai eu mon premier agent. Donc après, tout s'est enchaîné. J'ai commencé la carrière donc il y a déjà 10 ans pour un jeune chanteur. J'ai commencé à 25 ans, c'est ça. Et du coup, après les contrats se sont enchaînés, j'ai travaillé dans plusieurs maisons en France, un petit peu à l'étranger aussi. Et j'ai toujours eu cette idée de défendre le répertoire français, parce que je fais aussi partie de ces chanteurs qui adorent la mélodie. La mélodie française, pour moi, est un bijou. Et on le défend pas assez, ou elle est souvent... passez-moi le mot, elle est souvent massacrée. Vraiment, et c'est dommage, parce que c'est vraiment... ça devient des fois désagréable à écouter, alors que y a des bijoux de composition dans ces mélodies, tout ça. Et donc un amour profond pour la langue et pour la mélodie et l'opéra, l'opérette. Et puis les rencontres, la chance de travailler, comme je vous disais tout à l'heure, notamment avec Gabriel Baquier, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, et qui m'a apporté un goût aussi... à tout ce répertoire qui lui aussi est un fervent défenseur de la langue française et qui aurait rêvé d'arriver à remonter une troupe en France pour refaire travailler les jeunes chanteurs. Mais en règle générale, le répertoire français est quand même, ce que disait Didier, on a un vivier maintenant de jeunes chanteurs qui revient, on a beaucoup de gens qui défendent la langue avec beaucoup de talent. François d'ailleurs le fait magnifiquement aussi. Et non, c'est bien, je suis aussi content d'avoir pu intégrer cette académie pour travailler, pour avoir l'honneur de travailler avec Michel Plasson, et puis pour un baryton basse, pour travailler avec Monsieur José Van Damme, c'était un bonheur absolu.
Pour ça, vous avez voulu intégrer cette académie.
Oui, je l'ai intégré. Didier m'a gentiment proposé de me faire entendre au maître. Maître Plasson de m'écouter, il m'a entendu, et voilà, après c'est ce que vous expliquez Didier, c'est une présélection, je pense qu'il sélectionne ensemble les chanteurs qu'ils aimeraient entendre et faire travailler, parce que c'est gracieusement, tout est offert par Maître Plasson, donc c'est une chance extraordinaire. En plus nous avons la chance, pour moi à 35 ans bientôt, et François à 23 ans, de travailler avec le plus grand chef français, ou un des plus grands chefs français, encore vivant, encore là.
Il a toujours défendu la musique française.
Ah oui. Et puis magnifiquement bien.
Et vous ne vous contentez pas qu'à la musique française?
Non, j'adore le répertoire.
Pas de sectarisme, le répertoire. Quand
non,
même.
Non, pas de sectarisme. J'adore la musique française, j'adore le répertoire italien. J'adore Verdi, Puccini, j'aime beaucoup le 19e italien.
En général.
Et en général, oui. Mais comme pour rebondir sur ce que disait Didier, la langue française est... Si elle est boudée aussi, c'est parce qu'elle est très difficile à défendre. Et pour un chanteur, on est bien placé pour vous dire ça, c'est vraiment très difficile à chanter. On dit souvent, les Français, c'est plus facile de chanter. Non, non, non. C'est... Souvent, même les étrangers arrivent, à force de travail, à la chanter même mieux que nous. Et j'avais un ami américain avec qui on avait fait des concerts plusieurs fois ensemble, qui chantait de la mélodie avec moi, et notamment des mélodies que j'avais déjà chantées. Et c'était parfait, de précision, de texte, de travail, comme il l'aborde vraiment. Pour nous, il faut faire ce même travail de l'aborder comme une
langue étrangère.
Une langue étrangère.
C'est exactement la réflexion qu'a eue une professeure au conservatoire de Strasbourg. Elle a dit « J'ai commencé à savoir chanter en français quand je l'ai abordé comme une langue étrangère. »
Oui, c'est ça. Puis après, nous, on est obligés. Vous avez trois représentants du Sud-Ouest, là. On est un peu obligés de lutter contre l'accent.
Contre l'accent chantant, qui est déjà chantant.
Un petit peu. Moi, je le force pas trop. Je m'applique pour pas que ça s'entende trop, mais je suppose que malgré tout, on l'entend. Non,
les accents, c'est l'histoire de la France. Hein.
Exactement.
Bien sûr. Et quand on entend même certains enregistrements, anciens enregistrements, on entend ces accents qui font le terroir, finalement.
Anthony Poncet qui chantait l'empereur Constantin. Excusez-moi.
Oui, Constantin.
Voilà, ben oui.
On va revenir à la musique française et l'opéra avec Guercœur d'Albéric Magnard, le baryton José Van Damme. Autre associé, évidemment, fameux associé de l'Académie de musique française de Michel Plasson, qui chante Malheureux peuple, extrait de l'acte 2, un enregistrement EMI de 1987, évidemment, sous la baguette de Michel Plasson. Nous écoutions un extrait de Guerre-Cœur avec José Vandamme dans le rôle titre. Michel Plasson à la tête de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Guerre-Cœur, un opéra du français Albéric Magnard, méconnu et défendu sur scène et au disque par Michel Plasson, ardent défendeur des ouvrages français oubliés. On parlait tout à l'heure des genres scéniques. Il y a un genre que l'on a évoqué, mais on n'en a pas beaucoup parlé encore, un genre vocal bien spécifique à la France, la mélodie. Alors, quelle est la singularité de la mélodie qui est apparue, je le rappelle, bien après le lied allemand? Vous avez une idée, François, par exemple, une spécificité, vraiment quelque chose qui... du lied ou...
La difficulté de la langue française, ça fait, le français en lui-même est, moi je trouve, aussi difficile que l'allemand. Et d'avoir un genre de mélodie, un genre de mélodie leader et une mélodie française prouve que nos compositeurs ont écrit des choses extraordinaires, qu'on a des poètes extraordinaires actuels, anciens. Et d'avoir un genre mélodie française et leader, ça prouve qu'on a la puissance du pays, de la langue et des artistes.
Oui, je rajouterais qu'en plus, on a une tendance à penser, à mon avis totalement fausse, de croire que la mélodie française est une espèce de dentelle très fragile. C'est vrai en partie, il y a des forêts extraordinaires, des Debussy à tomber par terre, mais vous avez du Parc extrêmement lyrique, des Berlioz lyriques. Et je crois que là aussi, on sert le même but, c'est-à-dire cette clarté française. Et comment dirais-je, c'est aussi une façon de chanter très spécifique, c'est qu'on recherche plus la clarté que le son. Et en pensant la clarté, on fabrique le son. Si vous faites, on prête un peu plus attention aux autres répertoires, on pense le son pour la phrase, mais là, on pense surtout la clarté. Et c'est cette clarté qui nourrit le son. Et on peut faire mille et une couleurs dans cette clarté. Et ça, je trouve que quand on y a des forêts magnifiques à tomber. Et là, bien sûr, toutes les voix ne peuvent pas le servir de la même façon. Pas toutes. De même que du Parc, une petite voix, c'est pas tout à fait ce qu'il faut. Du Parc, il faut une voix plus lyrique, plus large, exactement, mais toujours claire. Toujours claire d'intonation.
On sert le poème en premier, le texte, évidemment. Et la difficulté, c'est exactement ce que dit Didier, c'est de trouver la bonne embouchure. Souvent, les erreurs qui se font beaucoup dans le répertoire de mélodies, parce que comme tout peut se chanter, par exemple, Forêt, vous pouvez prendre toutes les mélodies de Forêt, et elles sont chantées par un baryton, une basse, un ténor, une mezzo, on peut toujours transposer toutes les mélodies, mm-hmm, à part certaines très spécifiques qui sont écrites pour une voix. Mm-hmm. Mais on parlait de Forêt, c'est... Le problème, c'est de bien défendre et de se rendre compte qu'il y a certaines choses qu'on peut faire selon notre potentiel vocal. Absolument. Mais quand j'entendais des voix d'une qualité, d'une finesse chanter du Parc, qui demande quelque chose de plus animal, quelque part, de l'engagement. Et on se dit souvent, c'est aussi des erreurs de style. C'est comme si on déplaçait un peu les voix. Il faut chanter avec sa voix. Bah, pour Forêt, je me rappelle... Je n'ai plus souvenir qui me dit ça, par contre, mais je me rappelle que cette phrase me dire « chante ça comme du Brel ». C'est une certaine... Déclame-le d'une manière sincère.
Plus que chanter.
Voilà, sincère, soit comme un chansonnier. Tu es en situation où tu as le piano. C'est très intimiste et il faut à la fois livrer le poème. Et si ça devient, pour moi, trop intellectuel, ça brise tout.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et le mot qu'on n'a pas encore utilisé, c'est le mot « déclamation ». Il y a un art de la déclamation à la grande tradition, la tragédie française, qu'on retrouve aux origines de Gluck et qui nous amène jusqu'à Berlioz avec une filiation magnifique. Et la déclamation est fondamentale.
Un rythme qui se colle toujours
absolument
au texte pour le servir au plus juste.
Absolument. Et ça peut être mais sensationnellement mélodique. Prenez les nuits d'été, c'est du phrasé sans arrêt. Ou prenez, je ne sais pas moi, Scheherazade. Les poèmes de Klingsorp, c'est à tomber par terre. Asie, pays merveilleux, des contes de nourrice, où dort la fantaisie comme une impératrice. C'est à tomber par terre. Ah, oui. Et c'est sensuel, pardon. Et c'est sensuel aussi.
Voilà. Faut pas l'oublier. Pas que les Italiens.
Merci.
Nous aussi.
La mélodie, c'est donc un passage absolument obligé quand on étudie le chant français.
Ah oui, oui, obligatoire. Pour en avoir fait, pour avoir terminé mon cursus, enfin, ou presque, au conservatoire à Toulouse, le passage de la mélodie, c'est obligatoire. Premièrement, on nous en demande à tous nos examens, et c'est une école. C'est une école pour apprendre le français. Et quand on disait tout à l'heure qu'il fallait aborder le français comme une langue étrangère, je trouve qu'on ne parle pas assez de phonétique en France. Et ce que font beaucoup les Américains, de ce que j'ai entendu dire,
les Allemands aussi,
ils sont très bons, ils ont des cours de phonétique, etc. Je pense que il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas, et ce travail qu'ont les étrangers en abordant le français, que nous passons ce...
Et puis qu'on fait pour les autres langues, c'est qu'on fait pour les autres langues.
Bien sûr, l'italien...
On va faire cet effort, on se repose souvent sur nos lauriers, on dit, on est français, bon, c'est bon, on sait.
C'est ça.
Mais on a besoin, si on veut vraiment servir la partition...
Français ou francophone, est-ce qu'il faut avoir vraiment cet esprit chevillé à l'âme pour chanter spécifiquement à l'étranger?
Pas besoin d'être un nationaliste non plus. Hein.
Voilà. Voilà. En écoutant, on vient d'écouter le plus francophone... Le plus français de nos Belges. Mais quand on écoute José Van Damme, évidemment.
Je signale d'ailleurs que dans l'enregistrement de Gerker, il y a Hildegard Behrens, qui est extraordinaire, magnifique.
Oui.
Bon, ben voilà.
Mais je ne pense pas qu'il y ait besoin d'être.
Mais là où je vais faire mon mauvais sujet, c'est que je pense qu'on a plutôt tendance à penser qu'on peut faire Fauré comme Berlioz et qu'on n'a pas du tout tendance à penser qu'on fait Schumann et Schubert comme Strauss. Et ça m'agace. Mais non, c'est la même chose. On n'aurait pas l'idée de faire de la même façon, mais dans le répertoire français non plus, la mélodie non plus. Non plus.
Votre parcours, parce que vous êtes très jeune, alors qu'est-ce que c'est ?
Mon Dieu ! Mon parcours. Alors, à la base, moi, j'étais corniste, plus jeune. J'ai commencé à l'âge de 7 ans au conservatoire d'Angoulême. Totalement par hasard, j'ai rencontré mon professeur là-bas de cor, qui est quelqu'un qui a une pédagogie monstrueuse. Au lieu de présenter des morceaux de Mozart, des morceaux de Beethoven, que toutes les classes avaient présentés, pendant une journée spécialement dédiée aux élèves qui n'avaient pas... il a présenté de la musique de film, de la musique de série télé, pour des enfants, mais c'est génial. Alors la classe de cor, on va pas se mentir, hein, il y a sur tout un conservatoire, il doit y avoir quoi, 10 élèves de, en moyenne, hein, 10 élèves de cor, tout niveau confondu, donc le professeur, quand il a un élève, il le lâche pas. Et moi, il a eu du mal à me lâcher, dans le sens où je suis arrivé, j'ai réussi, on a passé 5 heures au conservatoire d'Angoulême. 5 heures après, j'avais mon instrument, mon horaire, ma première semaine de cours la semaine d'après. J'avais même mon premier cours de solfège la semaine d'après, alors que à l'âge de 7 ans, la seule chose que je connaissais de la musique, c'était peut-être la comédie musicale Notre-Dame de Paris.
Ouais.
voilà mon niveau de musique. Mes parents, ma mère un peu musicienne qui avait fait le conservatoire plus jeune, mon père, vendeur de voitures, directeur de concession actuellement. Rien à voir avec la musique. Des bacs j'ai. D'ailleurs, j'ai un bac. Enfin, j'ai un BTS assistant gestion. Complètement, pas du tout musique. Hein, vraiment pas spécialisé en musique. Et à 7 ans, moi, j'ai dit à mes parents, je veux être soit sur scène, soit derrière la scène, soit dans la scène. Voilà. Donc, je désignais la fosse, l'arrière de scène pour les régisseurs et autres, et sur scène en tant qu'artiste. Arrivé à Toulouse à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à chanter dans les chœurs. J'ai commencé chez les petits chanteurs à la Croix-Potencée. On parle pas beaucoup des maîtrises en France. Je trouve que c'est une...
En Alsace, sont bien représentés.
En Alsace, oui, mais en Alsace,
c'est un cas particulier.
On est encore...
La révolution française
la révolution.
A été redoutable avec les maîtrises. Hein.
On a perdu 90% du patrimoine après
Toulouse,
la...
Toulouse, elle est quand même bien défendue.
À Toulouse, on a réussi à ressusciter les maîtrises françaises avant d'avoir la maîtrise du conservatoire. Moi, je peux en parler puisque j'ai fait partie de cette histoire. Il y avait les petits chanteurs à la Croix-Potencée de Toulouse qui sont l'équivalent des petits chanteurs à la Croix-de-Bois de Paris. Qui sont, en fait, c'est le seul organisme qui est qu'on appelle ça, affiliés. Mmh. C'est, il y a plein de Poeri Cantores, il y a une grande association des Poeri Cantores en France. Il n'y a que les petits chanteurs acropotentiels de Toulouse qui ont le droit de porter la croix dans les concerts parce qu'on est affilié au petit chanteur à la croix de bois. D'accord. Notre croix est un peu différente, mais ça, bon, ça c'est mon adolescence et la fin de mon enfance. Je suis rentré au conservatoire en rentrant à la maîtrise de Toulouse avec Marc Hopstadt à la baguette. D'ailleurs, ils viennent de gagner le prix de Madame comment elle s'appelle, la grande dame de chez L'Oréal, qui Bettencourt, le prix Bettencourt, ils l'ont reçu là le 16 juin, je crois. C'est tout récent. Ils vont faire une série de concerts. Je suis très content pour eux puisque j'ai quitté la maîtrise début septembre de 2016. Tout frais dans le sens où je voulais devenir soliste et qu'il faut savoir lâcher prise. Les maîtrises, c'est très bien pour la formation, mais quand on veut voler de ses propres ailes, les maîtrises, il faut savoir les quitter. J'ai continué en complémentarité de mon cursus de corniste jusqu'à mon prix de conservatoire à 18 ans. J'ai continué la maîtrise jusqu'à l'année dernière, j'avais 22 ans. J'ai commencé la classe de chant tout de suite après la fin de mes études de cor. Enfin, j'ai pas été reçu la première année, j'ai été recalé. Bon, en même temps,
Il faut toujours persévérer.
Il faut toujours persévérer, hein, mais voilà, hein, il m'avait dit travailler, il n'y a aucun souci. J'étais venu avec quelque chose de pas par cœur, donc forcément, ça, c'est rédhibitoire, bon, c'est normal. Et j'ai commencé mes études en 2011. Mmh. En 2011, vraiment un cursus chanteur soliste. Mmh. J'ai commencé grâce à un ami que j'ai connu à la maîtrise de Toulouse, Jean-Christophe Fiol, en garant de salle de Hiss aussi, qui m'avait dit mais va à la classe de chant, fais-toi écouter, va voir Jacques Schwartz, il est super et il sera très intéressé par ta voix. Bah, ça a été le cas, hein, la deuxième année après le recalage, enfin après avoir été recalé la première année, j'ai fait un aria antique, Virgine et Toto Amor,
si mes souvenirs.
Reste dans le français complet. Non, mais je connaissais pas du tout la mélodie française.
Donc c'est après que vous avez connu la mélodie française, et cet amour ensuite
tout d'abord,
du chant français.
Premier cours de chant, on m'a dit, toi, tu seras peut-être un Paris. Travaille le jugement de Paris. Le jugement de Paris de la belle Hélène d'Offenbach. Qu'est-ce que je fais ?
On revient à l'opérette.
On revient à l'opérette. Première chose que j'apprends, la semaine d'après, j'avais la partition, j'avais commencé à comprendre. Ouais. Qu'est-ce que j'ai écouté comme premier disque ? Eh bien, la version Michel Plasson. Avec le joli coffret qui existe toujours à la vente, le grand coffret de tous les opéras de Michel Plasson, que mes parents avaient reçu il y a 2-3 ans auparavant, d'un ami, Claude Jacquemin, qui est un des grands amis.
Régisseur,
l'ancien régisseur.
Pendant des années.
Un des plus grands amis de la famille, je pense.
Absolument.
Je pense que sans
et d'ailleurs, c'est ce Claude Jacquemin qui a amené François à l'Académie.
Je traversais une très mauvaise passe au conservatoire. Oui. Je venais de finir un examen qui s'était plutôt mal passé.
Et un sauveur.
Ouais. Non, quand je dis un sauveur, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, ouais. Parce que je pensais reprendre des études. Je crois qu'il y a un cursus à Aix-en-Provence de régisseur d'orchestre. Ouais. Je voulais reprendre des études après mon BTS que j'avais arrêté un an auparavant. Je m'étais mis au chant et j'avais décidé d'arrêter. Il m'a dit, avant d'arrêter la musique, tu viens avec moi, je t'emmène à Poy. Tu viens avec ton programme et tu seras auditionné par le maestro, par Michel Plasson. Michel Plasson, c'est le gars des disques, c'est la personne qui a fait monter l'orchestre où je travaille. Je suis ouvreur à la Allograin de Toulouse. Oui. Le spectre,
le spectre du maestro plane encore autant dans les, chez le musicien que dans la salle. C'est-à-dire qu'il y a encore des personnes qui parlent. C'était mieux avant, à l'époque de Michel Plasson.
Ça commence à être médisant.
Médisant. Non, je pense qu'il y avait. C'est
la nostalgie.
Non, c'est la nostalgie.
Active.
C'est ça.
C'est voilà. Et. Moi, j'ai...
C'est comme ça que vous êtes arrivé.
Je suis arrivé à l'académie. Oh, l'audition, c'est pareil. Oh là là, quelle histoire, ça aussi. J'arrive avec mon programme de prix et je fais mon audition et ça, c'était magnifique.
Et on va écouter une soliste aussi, une soliste britannique. Donc on parlait tout à l'heure des chanteurs étrangers qui chantent en français. Félicité Lotte.
Félicité Lotte.
Et dans une mélodie de Paul Bernard, ça fait peur aux oiseaux. Nous écoutions la plus française et chanteuse britannique, Felicity Lott, dans une mélodie de Paul Bertrand, ça fait peur aux oiseaux, accompagnée au piano par Graham Johnson, un CD Four Lane de 2010. Et bien nous quittons sur cette belle mélodie, merci à Didier Laclos-Barrère, délégué général de l'Académie de musique française Michel Plasson, dont on entendra les élèves de la classe de chant ce soir, parmi lesquels Julien Véronèse, basse, et François Pardaillé, ténor. Est-ce que vous pouvez me dire rapidement ce que vous allez chanter ce soir et vos projets futurs ?
Alors ce soir, justement, on parlait de mélodie. Ce soir, je vais essayer de défendre les Don Quichotte. Je fais un mélange entre les mélodies de... Parce qu'il y a trois de mélodies de Don Quichotte de Maurice Ravel et quatre mélodies de Don Quichotte de Jacques Ibert. Et je chante donc vraiment la première, la chanson romanesque de Maurice Ravel et deux mélodies de Jacques Ibert, la chanson Adulcinée et la chanson de la mort. Voilà, autour de ce dont on parlait tout à l'heure, du plaisir et de l'amour que j'ai pour la mélodie française. Voilà, c'est quelque chose que je défends avec grand plaisir et je chante toujours avec beaucoup de joie.
François ?
Moi, je vais défendre l'opéra français. Enfin, j'espère. Je vais faire défendre.
Hein. Si, dis donc, il n'y a pas d'essayer ni d'espérer.
Ah non,
en fait.
Bon. Je vais chanter l'air extrait des Pêcheurs de Perles, l'air de Nadir. Je crois entendre encore sa voix tendre et douce. Ah là 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 là, tendre et sonore. Comme un chant de ramier, de palmier. Ouais. Aïe aïe aïe. Je vais essayer de défendre ça devant le maestro. Il l'a entendu, il est très content de cette version. J'espère pouvoir continuer à avancer.
Je voudrais juste finir en disant que ceux qui ont eu la chance d'écouter La Damnation l'autre soir, la musique française, il y a eu aussi une espèce de magie en plus. Et quand on a un magicien comme Michel Plasson, croyez-moi, c'est hors du commun. Et je peux vous dire que je l'ai entendu plusieurs fois avec lui, mais l'autre soir, il y a eu quelque chose d'une alchimie hors du commun.
Et ça a été capté par Accent 4.
Je le sais, je m'en réjouis.
Oui, c'est un sublime concert. Merci, sublime. Merci.
À reçure.
Je rappelle que ce soir à 21h, en l'église Saint-Mathieu, vous pourrez entendre la très jeune violon soliste Daniel Acta avec l'Orchestre National Philharmonique de Russie sous la direction de Vladimir Spivakov dans un programme franco-russe. Merci à tous d'avoir suivi à cette première partie d'émission. Merci à Maxime pour la technique. Je vous laisse maintenant découvrir les concerts de demain, 12 juillet, du Festival International de Colmar, dans la deuxième partie de cette émission. Demain, nous recevrons le pianiste Nikolaï Louganski. Bonne soirée à tous sur Accent 4, la musique classique en Alsace.
L'Opus Festival de Colmar, une émission d'Accent 4 en partenariat avec le Festival de musique de Colmar et avec le soutien du CICEST et d'Arpège Armand Meyer.